Bienvenue sur Podcast Horror Story, un podcast sur les récits d'horreur et les creepypastas. Je suis Dan, et vous êtes mes témoins dans cette descente aux enfers. Je m'appelle Daniel, et ce que je vous ai envoyé est réel et s'est déroulé il y a 3 ans. J'étais alors responsable manager dans une petite épicerie fine à Paris dans le 11e arrondissement. Malheureusement, celle-ci, pour cause économique, a dû me licencier. J'étais dès lors sans emploi. Quelques semaines plus tard, je reçus un appel pour un nouveau boulot dans le même secteur d'activité et mieux payé en plus de ça. Je devais prendre mon poste en septembre et nous étions début juillet. J'avais donc du temps pour moi afin de me préparer pour ce nouveau poste. C'est mi-juillet que mon cousin Jonathan m'a contacté pour savoir si un petit boulot m'intéressait. C'était un poste de moniteur dans un centre de vacances pour enfants parisiens. Le centre se situait près de Figeac, dans un ancien moulin à eau avec une grande surface de champs et d'arbres fruitiers. Je devais juste gérer un groupe de 15 enfants, avec l'aide de 3 autres moniteurs, Michael, Sarah et mon cousin. Il y avait aussi le responsable du site qui bosse là-bas depuis 20 ans, Pierre. Il accueille les enfants plutôt de bonne famille, car le séjour de 3 semaines n'est pas donné à tout le monde. Le boulot était assez simple. Faire prendre le petit-déjeuner aux enfants, organiser des jeux sur place et des balades, faire des visites touristiques. Le gouffre de Padirac est sensationnel et Rocamadour vertigineuse. Il y avait aussi des balades gastronomiques. Pas besoin d'être assermenté pour gérer ce petit groupe d'enfants. C'était la 2e année pour mon cousin et il était toujours aussi content. Nous voilà donc partis en train par la gare de Lyon. Après 6 heures de train et 20 minutes de voiture, nous voici arrivés sur place. L'accueil fut très bon et Pierre était très content des moniteurs de cette année. Nous avons passé une superbe soirée autour d'un bon repas arrosé de délicieux coteaux du Layon. 2 jours plus tard, les enfants sont arrivés par car. Et c'est dans une bonne ambiance, décontractée, que la première journée s'est terminée. Après 1 semaine au centre, tout était au top. Et les enfants tellement agréables. Pierre était très content de notre boulot et il espérait vraiment nous revoir l'année prochaine. C'est la 2e semaine que ça s'est passé. Comme tous les soirs, Michael, Sarah, Jonathan et moi préparions pendant le dîner la journée du lendemain. Michael et Sarah étaient en couple. On avait encore le droit ce soir-là à leur éternel bécotage journalier. Le repas terminé, les enfants vinrent nous trouver pour savoir s'ils pouvaient tous dormir dehors juste pour cette nuit. Le centre possédait des tentes, 2 places et un barnum dans lequel on pouvait tous se retrouver. En juillet, le soir arrivait vers 22h et du coup, nous avions le temps de nous occuper des tentes avant la nuit. Une fois les montages terminés, les enfants voulurent se raconter des histoires d'horreur à l'intérieur du barnum. Ça nous a fait rire, alors nous on a accepté. Des 4 moniteurs présents, j'étais le seul à adorer les films d'horreur. Mon cousin Jonathan lui voulait un culte à Jean-Claude Van Damme. Après réflexion, j'ai décidé de raconter aux enfants l'histoire d'un groupe de jeunes scouts dans un bus parti en balade. Tous les enfants étaient concentrés sur l'histoire et un calme de dingue régnait dans le barnum. Devant moi, les enfants placés au premier rang étaient plongés dans l'histoire. Même cet enfant dont je ne me rappelais plus le prénom et qui me fixait avec un sourire qui, au bout de 15 minutes d'histoire, commençait vraiment à devenir gênant. Il faut dire que nous avions, chaque moniteur, un petit groupe d'enfants et que nous ne connaissions pas parfaitement tous les prénoms. J'étais à fond dans mon histoire où les scouts, après s'être arrêtés sur le bord de la route, entendirent des coups sur le toit du car, commis par un serial killer qui avait coupé la tête d'un autostoppeur. Après la révélation du mystère de mon histoire, tous les enfants étaient pétrifiés de peur. Tous, à part l'enfant qui me fixait avec son sourire toujours présent sur son petit visage potelé. Je l'ai à mon tour fixé dans les yeux et je me suis rappelé de lui lors de la 1ère semaine au centre. C'était lui qui ne se baignait pas dans la pâte aux joueurs fabriquée par les enfants. Lui encore qui restait à l'écart, à l'ombre, lors des matchs de football de l'après-midi. Le plus étrange, c'est que je ne me rappelais pas de son prénom. Pierre entra dans le barnum et comme à son habitude, il fit le comptage des enfants pour vérifier que tout le monde était bien là. Nous devions d'ailleurs tous le faire, tous les jours et à chaque nouvelle activité au centre. Pierre dut s'y reprendre 3 fois avant de me faire un signe de la tête pour me dire, sans alerter les autres, de venir le rejoindre devant l'entrée du barnum, ce que je fis. Il me demanda alors de compter les enfants avec lui. Dans mon subconscient, il y avait comme au début des vacances au centre, 15 enfants. Mais là, j'en comptais 16. Je me suis tourné vers Pierre qui, sans rien dire, me fit un hochement de la tête. Incrédule, je, je décidai de recompter pour la troisième fois le nombre d'enfants assis dans le Barnum. 16 encore une fois. Comment sommes-nous passés de 15 enfants à 16 sans s'en rendre compte? C'était incompréhensible. Pierre, sans plus attendre, prit la parole et sans aucune explication demanda avec une voix calme et maîtrisée à tous les enfants et aux autres moniteurs de quitter le Barnum et de se rendre devant les dortoirs pour une surprise due à leur bon comportement de la journée. Tous s'exécutèrent et se levèrent sans rien dire, se dirigeant à l'extérieur vers les dortoirs. Tous, sauf un. Le petit garçon étrange qui était devant moi était toujours assis en tailleur, le dos vers nous, sans aucun bruit. Pierre me fixait toujours des yeux. Voulant s'assurer que tous les enfants étaient bien devant leurs dortoirs respectifs, Pierre tourna la tête quelques secondes. Je fis la même chose. Mon mouvement de tête fut très rapide. Lorsque j'ai voulu regarder l'enfant assis par terre, il n'était déjà plus là. Ce que je redoutais le plus venait de se passer. Il n'y avait plus personne à part Pierre et moi dans le Barnum. On a rejoint le reste des enfants et des moniteurs sans rien leur dire. Et puis tout le monde est allé se coucher. J'en ai parlé aux autres moniteurs qui se sont foutus de ma gueule. Le lendemain, Pierre décida d'écourter le séjour des enfants, prétextant une fuite d'eau ou de gaz, je ne me rappelle plus trop. Le car partit du centre avec les enfants dans l'après-midi. Ne pouvant plus garder tout cela pour moi, Pierre restait complètement muet sur le sujet. J'ai quand même demandé aux enfants qui étaient assis au premier rang avant leur départ s'ils savaient qui était l'enfant étrange. Tous m'ont répondu qu'il n'y avait aucun enfant bizarre au premier rang et qu'ils n'avaient pas vu d'autres enfants que ceux qui étaient déjà là depuis le début. Ils n'ont toujours été que 15. Le cerveau humain, lorsqu'il est confronté à quelque chose d'étrange, a tendance à effacer certaines données qu'il n'a pas su déchiffrer. En tout cas, c'est ce que mon cerveau a fait en rentrant du centre. Jusqu'à ce soir. Je suis rentré de la gare de Lyon avec mes bagages. J'ai fermé ma porte à clé, et juste avant de me retourner vers le salon, la poignée de la porte d'entrée a bougé violemment. C'était en début de soirée, 18 ou peut-être 19 heures, je ne sais plus trop. Karl m'a demandé ce que j'avais prévu pour la soirée. Karl, c'est mon meilleur pote. On s'est connus au collège d'Iedora au Bourget. Notre collège se situait pas très loin du musée de l'espace. Moi, je vivais à cette époque dans une cité de banlieue qui, il y a plus de 30 ans, était un vrai havre de paix. Tout le monde se connaissait et se respectait. Karl, lui, vivait dans un petit immeuble à deux pas de ma cité. On était dans la même classe, et on s'est bien entendu très vite. On a commencé à traîner ensemble, et puis on s'est découvert plein de points communs. Surtout les jeux vidéo et les comics. Il nous arrivait souvent de passer des après-midi entières à parler de films ou de dessins animés. Et puis on a grandi. On a commencé à travailler et à gagner nos premiers euros. On s'achetait nos consoles et on faisait des parties en ligne jusqu'à tard dans la nuit. Karl et moi avions développé une vraie passion pour les figurines et autres produits dérivés de la pop culture. Moi à fond comics, et lui plutôt manga. On avait l'habitude de passer nos samedis soirs à jouer à un jeu en réseau, Soldier of Legend. C'était donc vers 18 ou 19 heures, je ne sais plus. J'étais chez moi, et j'attendais Karl pour commencer notre partie de jeu du week-end. On se donnait rendez-vous une fois chez moi et l'autre chez lui. Il avait du retard et je commençais à m'impatienter. Au moment où j'allais lui passer un coup de fil, mon téléphone se mit à sonner. C'était lui. Il me dit qu'il était encore au boulot et qu'il terminerait un peu plus tard. Ensuite, il me demande d'aller chez lui pour récupérer sa manette de PlayStation dans sa chambre.
Sur le coup, ça m'a saoulé. Et puis, quitte à l'attendre, je pouvais bien aller faire un tour. Je suis sorti de chez moi en direction de son immeuble. On s'était mis d'accord pour avoir chacun la clé de l'autre au cas où. Je suis entré dans son appart. J'ai allumé la lumière et je me suis mis à la recherche de sa manette. Je fus surpris par sa nouvelle acquisition. Elle était dans un coin du salon qui lui servait aussi de musée de collection. Karl avait la sale manie d'acheter des pièces de collection assez volumineuses. Il y avait un Zetan, le supposé extraterrestre de Roswell. Grandeur nature. Deux Goldorak d'un mètre chacun qui lui avaient coûté une fortune. Un Godzilla lumineux. Et une réplique officielle d'un R2-D2 taille réelle. Et puis voilà que maintenant il y avait ce... ce truc. Il avait dû l'acheter récemment car la semaine dernière quand je suis venu chez lui, elle n'y était pas. Il a sûrement voulu m'en faire la surprise. Environ 1m70, des habits à moitié cramés et sales, des mains comme brûlées à l'acide, et une tête qui ressemblait à un morceau de fromage en train de fondre. Sur le coup, il m'avait un peu foutu la trouille. Je suis pas un de ces gars qui flippe à cause de ces personnages de films d'horreur, mais là, en allumant la lumière, je me suis dit qu'il avait réussi à faire son petit effet. C'était le produit dérivé d'un film d'horreur le plus spectaculaire qu'il avait acheté jusqu'à présent. Après avoir cherché où j'avais pu le voir auparavant, je me suis rappelé du film... Robocop, et du personnage qui crevait après être passé dans une cuve d'acide. Oui, c'était à ça que ressemblait cette figurine géante, ce mannequin. J'ai continué à chercher la manette. Ne la trouvant toujours pas, je me suis résilié à appeler Karl pour lui demander où il l'avait posée. Il décrocha, je lui demandai où était la manette, et il me répondit qu'elle était sous le coussin droit du canapé. Une place logique pour une manette. Juste avant de raccrocher, je l'ai félicité pour le nouveau mannequin, qu'il venait d'acheter, et je lui ai demandé le prix. Il ne m'a pas répondu tout de suite. J'ai été obligé de lui reposer la question pour qu'enfin il me réponde.
Dan, s'il te plaît, écoute-moi bien attentivement. Reste calme. Ne fais pas de gestes rapides et sors tout de suite de chez moi. Sans poser de questions, sors de chez moi. Je n'ai acheté quoi que ce soit de nouveau depuis 2 ans.
Elle avait décidé de sortir ce soir-là, d'aller boire un verre avec ses copines. On était jeudi, et comme tout le monde le sait, le jeudi c'est le nouveau vendredi. Donc tout le monde sort le jeudi. Sauf moi. Moi je suis un casanier, donc j'aime bien rester à la maison. Ça la gonfle que je sois si pantouflard, mais bon, je suis comme ça, c'est mon tempérament. Et puis je venais de recevoir un colis avec plein de Blu-ray que j'avais commandé sur un site d'occasion. Alors ce soir, pendant qu'elle allait descendre des mojitos avec ses copines, moi, j'avais prévu une soirée spéciale Paul Verhoeven. Pour m'accompagner, un grand saladier de pop-corn au beurre et un pack de bière Parisis. Après avoir passé du temps dans la salle de bain à se préparer, elle en sortit et me demanda si je voulais venir avec elle. J'ai tendu le bras avec, à chaque bout, les pop-corn et la pile de Blu-ray. Elle souffla et claqua la porte d'entrée en partant. Il était temps pour moi de me mettre en mou, comme disent les Québécois, et de me vautrer dans un sofa moelleux. J'ai commencé avec Robocop, puis j'ai enchaîné Total Recall et Starship Trooper. C'est Invisible Man qui a raison de moi. Je me suis endormi devant comme une loque. Je me suis réveillé au générique de fin. J'ai tout éteint, j'ai laissé tout mon bazar sur la table basse du salon, et je suis allé me coucher dans notre chambre au premier étage. J'avais l'impression d'avoir dormi 5 minutes quand Vanessa, ma femme, est venue me rejoindre au lit. J'étais vraiment encore trop bourré et fatigué pour lui faire un câlin. Tout juste assez pour m'excuser de ne pas être allé avec elle à sa soirée. Elle valida mes excuses par un au relent d'alcool et de menthe. Un mélange de fin de soirée et de crème de nuit. Elle me tournait le dos alors que je retombais dans les bras de Morphée. Les premiers bruits vinrent dans la porte du jardin. Ce sont eux qui m'ont réveillé. Je me suis assis sur le rebord du lit en croyant que j'avais rêvé et que les bruits venaient de mon subconscient. Mais non. Il y avait bien un bruit qui venait de la porte du jardin. Je me suis retourné vers Vanessa qui dormait, toujours dos vers moi. Sa respiration était intense. Elle devait être très loin, contrairement à moi. Je ne l'ai pas réveillée avant de savoir qui pouvait faire ce bruit à cette heure-ci de la nuit. Elle avait encore laissé la fenêtre ouverte de notre chambre pour dormir. Elle aimait pouvoir respirer pour dormir, comme elle dit. Moi, je suis frêleux, donc ça me plaisait moyennement. J'ai refermé la fenêtre et je me suis dirigé vers la porte du jardin. J'ai empoigné un grand bâton qui traînait devant la porte et dans un mouvement violent, j'ai ouvert cette porte. Personne devant le seuil. Ni même dans le jardin d'ailleurs. Soudain, un autre bruit. Mais cette fois, au niveau de la baie vitrée du salon. J'avais toujours le bâton avec moi. Je me suis dirigé vers le salon sans allumer les lumières. Si quelqu'un voulait rentrer chez nous, je voulais le prendre par surprise pour espérer avoir l'ascendant sur lui. Et comme pour la porte du jardin, il n'y avait personne devant la baie vitrée. Ni même du côté de la piscine. Si c'était un cambrioleur, je pense qu'il devait faire le tour de la maison afin de voir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Et comme je n'ai pas fait de bruit ni allumé la lumière, il s'était peut-être dit que c'était le bon moment pour nous cambrioler. Il forçait sur la porte d'entrée. Je suis retourné vite dans notre chambre afin d'en fermer la porte. Pour ne pas mêler Vanessa à tout ça. Elle pourra, si besoin est, appeler la police. Avant de la fermer, j'ai jeté un dernier coup d'œil dans l'entrebâillement. Elle commençait à se retourner. J'ai clos la porte avec minutie et je suis redescendu rapidement devant la porte d'entrée, qui était en face des escaliers qui mènent au premier étage de notre chambre. Je vous avoue que j'étais très stressé et vraiment flippé. Mais il en allait de la sécurité de ma femme et ça, je n'aurais jamais laissé personne lui faire du mal. J'ai déverrouillé délicatement les verrous de la porte. J'ai empoigné avec force le bâton que j'avais toujours avec moi. Une fois tous les verrous ouverts, dans un grand mouvement, j'ai ouvert la porte en poussant un grand cri en levant mon bâton. Devant moi, il y avait Vanessa, ma femme. Elle était trop bourrée pour retrouver ses clés dans son sac. Elle avait dû faire le tour de la maison pour trouver une porte encore ouverte. Je me suis retourné vers les escaliers. J'ai levé doucement la tête vers la chambre. J'ai cru avoir entendu la fenêtre s'ouvrir. Vous venez d'écouter Podcast Horror Story. J'espère que ce premier podcast vous a plu et que j'aurai surtout l'occasion d'en refaire d'autres. Ce podcast est produit par moi via la Sentence Prod. Je vous souhaite une bonne nuit pleine de rêves ou de cauchemars. Et le mot de la fin ? Regardez bien tous les soirs qui est couché à côté de vous. À bientôt.